Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Je vous souhaite à tous un excellent sabbat. J'espère que votre journée s'est bien passée jusqu'à présent et que cela va continuer ainsi. Mais pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci ou cela? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien pour m'aider dans cette difficulté? Ce sont des questions que chaque chrétien se pose à un moment donné ou à un autre dans la vie. Il nous arrive des choses que nous ne comprenons pas le pourquoi des souffrances, des difficultés, des peines, et nous voulons comprendre. C'est inhérent dans l'être humain de vouloir comprendre les pourquoi. Est-ce que la Bible peut nous aider à voir plus clair dans ce genre de situation? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de regarder l'histoire d'un homme que Dieu a appelé un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Un homme exemplaire, et pourtant, un homme sur qui Dieu a permis de tomber des malheurs et des souffrances inouïes. Exemplaire encore pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Nous allons tâcher de voir plus clair, de comprendre. Vous avez compris qu'il s'agit, bien entendu, du livre de Job. Et Job, ce livre, a depuis longtemps intrigué des théologiens. On se pose des questions. Pourquoi? On cherche à comprendre et il y a différentes théories qui sont proposées. Comme j'ai dit, les théologiens sont intrigués par ce livre. Pour beaucoup, c'est un livre très mystérieux, presque incompréhensible. Et pourtant, quand nous lisons de plus près, nous voyons que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas incompréhensible. Je ne prétends pas que nous pouvons comprendre absolument tout, mais nous pouvons déceler des thèmes majeurs et des leçons importantes pour nous, des choses que nous devrions garder à l'esprit quand nous passons par des moments difficiles. Bien, commençons donc dans Job chapitre 1, à partir du verset 1. Job chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient, un homme très connu, un homme avec une grande réputation. Ses fils allèrent les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Pourquoi est-ce que Dieu permet à Satan de venir dans sa présence de temps en temps? Je ne sais pas. Mais peut-être c'est à cause de ce que nous allons lire dans le livre de Job. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » C'est comme ça que Satan voit les choses, de façon, on va dire, utilitaire. Obéissance uniquement si c'est profitable, et si c'est pas profitable, ben c'est fini, on fait autre chose. Et c'est comme ça que Satan voit le monde, la vie, et apparemment c'est comme ça aussi qu'il voyait les êtres humains, que c'est la seule façon qu'un être humain puisse raisonner. Et c'est de là qu'est partie l'histoire de Job. Job va montrer que non, ce n'est pas vrai, que Job aller adorer Dieu de manière très désintéressée. Ce n'était pas pour en profiter qu'il adorait Dieu. L'Éternel dit à Satan, verset 12, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alors, un jour que ses fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Les Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé leurs serviteurs, les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. » Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Verset 20, la réaction de Job. Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Un homme de caractère, c'est clair. Est-ce que vous et moi, on pourrait faire autant? Est-ce qu'on aurait cette maîtrise dans une telle situation? Quant à moi, j'ai des doutes pour moi-même. Continuons, chapitre 2 maintenant. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. » Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » On voit la moquerie de notre adversaire et le mépris qu'il a pour toute la création de Dieu et en particulier pour les êtres humains. « Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et Satan voulait prouver qu'un être humain n'adorerait pas l'Éternel, sauf si ça pouvait lui rapporter quelque chose de bien. Et en fait, Satan va échouer dans cette expérience. Verset 8. « Puis frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Pardon, maintenant verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Ton existence est misérable, tu devrais maudire Dieu, il te tuera, et au moins tu auras la paix. » Pas un bon conseil de son épouse, n'est-ce pas? Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et alors, ses amis viennent maintenant pour le réconforter. Trois amis de Job, Eliphaz le Théman, Bildad le Shuhak et Tsophar de Nama, apprirent tous ces malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. La misère de Job était tellement extrême qu'ils sont restés là sans dire un mot pendant toute une semaine, jour et nuit. Ils voulaient simplement être avec lui pour essayer de le consoler. Dieu a permis à Satan, coup sur coup, d'enlever tout ce que possédait Job, un homme riche. Ses biens, tous ses biens, ses enfants, Et puis finalement, après cela, même sa santé, où il était devenu vraiment absolument misérable, malade, une souffrance extrême. Verset 1 du chapitre 3 maintenant. Job commence à exprimer toute sa douleur et son désarroi également. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il aurait préféré ne jamais venir au monde, tant sa souffrance était grande. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. » C'est tout cela qu'il prononce sur le jour de sa naissance. Cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière, et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni déroba la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec leurs princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. C'est ce qu'il aurait souhaité, de n'être jamais venu au monde. Descendons verset 20. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme? Pourquoi est-ce qu'on doit continuer de vivre quand on souffre tellement? Qui espère en vain la mort? Qui la convoite plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'y trouvait le tombeau. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Il exprime jusqu'à dans sa profondeur la tristesse, la confusion qu'il ressent, et puis, comme j'ai dit, un désarroi, la souffrance extrême. Il est malade, il n'a plus rien, il ne voit pas d'avenir devant lui après ce qu'il a vécu. Job est vraiment misérable à ce moment, et il ne comprend pas pourquoi. Il ne comprend pas pourquoi cela lui arrive. Au chapitre 4, ses amis commencent à essayer de le réconforter. Ils veulent l'aider. Mais ils se trompent dans leur approche. Pendant les prochains chapitres, ils vont constamment répéter le même refrain qui est « Si tu souffres, tu dois t'avoir péché. Il doit avoir un péché là-dedans quelque part. Dieu, quand il y a un malheur qui arrive sur quelqu'un, c'est toujours parce qu'il a péché, alors avoue tes péchés, repens-toi et tout ira mieux. » Mais en fait, nous avons déjà lu que même de l'avis de Dieu, Job était un homme intègre et droit, il se détournait du mal. Ce n'était pas un pécheur, personne n'est parfait, mais sa vie était exemplaire. C'est pour ça qu'il n'a pas compris, et ses amis n'ont pas compris non plus. Alors, chapitre 4, verset 7. « Cherche dans ton souvenir, lui dit son ami, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés ?» Si le malheur t'arrive, Job, c'est que tu as péché quelque part. Hein, Dieu ne permet pas des choses comme ça, à moins qu'il y ait péché. Et là, nous voyons déjà une première leçon. Dieu permet parfois le malheur d'arriver au juste. C'est pas une punition, forcément. Quand les malheurs, les preuves arrivent sur quelqu'un, ce n'est pas automatiquement parce que la personne a péché. Et nous devons nous garder d'imaginer que c'est le cas. Verset 12. Voilà, maintenant, c'est son ami Eliphaz qui lui explique d'où sont venues cette explication, l'explication qu'il donne à Job. Et c'est intéressant de savoir quel était ou qui était à l'origine de ces mauvais conseils que ses amis vont lui donner. Verset 12. Il explique qu'Eliphaz, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée et quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement, « L'homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l'a fait ? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tinrent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau ?» C'est pas très encourageant, c'est pas très réconfortant, n'est-ce pas ? D'où est venue cette optique très glauque et très noire? Eh bien, c'est un esprit. C'est Satan ou un démon qui est venu et qui a chuchoté ces choses à l'oreille de l'ami de Job. De voir l'existence de manière sans espoir. Si Dieu n'a pas confiance dans ses anges, et ça c'est... sans doute un ange un peu pétulant qui dit ça de son propre cas, Dieu n'a pas été juste envers moi, et s'il n'a pas été juste envers moi, il va pas être juste envers toi non plus, c'est impossible de plaire à Dieu, tu ne peux pas réussir. S'il trouve la folie chez ses anges, combien de plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tinrent leur origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau, c'est comme ça que Dieu vous voit. C'est comme ça que Dieu voit les êtres humains. Il va les écraser comme des vermisseaux. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. C'est pas la peine, Job. Dieu ne va pas te traiter de façon... c'est impossible ce que Dieu demande. Et c'est pour ça qu'il y a ces souffrances, parce qu'on n'y réussit pas. On peut pas être juste devant Dieu, donc on souffre. Mais nous allons voir, par l'histoire de Job, avec sa compte la suite, que ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Bien au contraire. Chapitre 5, verset 6. Continuons. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Autrement dit, s'il y a souffrance et punition, comme ce que tu subis maintenant, Job, c'est pas sans faute. Il y a une faute quelque part. Tu as dû commettre un péché que tu essaies de cacher maintenant. Et c'est pour cela que ça va continuer. Il doit y avoir une raison. Chapitre 6, Job va répondre à Eliphaz maintenant. Chapitre 6, verset 8. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Il a dit, je suis innocent, il n'y a pas de péché caché. Il n'y a pas de péché caché. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? Ne suis-je pas sans ressources et le salut n'est-il pas loin de moi? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte de Tout-Puissant. Vous devriez au moins essayer de me consoler et de me réconforter, et pas m'accuser faussement de choses que vous ne comprenez pas. Verset 24. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Vous me dites que j'ai péché, mais en quoi? Expliquez-moi. Moi, je ne vois rien. Que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvent vos remonstrances? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Verset 30. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Vous m'accusez faussement. Ce n'est pas à cause d'un péché que cela m'arrive. Je l'avouerais si je connaissais quelque chose qui n'était pas correct dans mon comportement. Verset chapitre 7 maintenant, le révolte de Job se poursuit. Verset 5. Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Tout œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Verset 16. Je les méprise, je ne vivrai pas toujours, laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Il s'en rendait compte à quel point il était peu de chose, Job. Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesserais-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché? Et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Job dit, si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi, mais je ne vois rien. Et pourquoi est-ce que ça doit durer? Pourquoi est-ce que ça doit continuer comme ça quand je ne vois rien? Pourquoi est-ce que tu ne me pardonnes pas? Qu'est-ce que j'aurais pu te faire pour t'offenser au point que tout cela me tombe sur moi? Chapitre 8 maintenant, c'est à Bildad d'intervenir. Chapitre 8, à partir du verset 13. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Encore une fois, même refrain. C'est ta faute, Job, t'as dû faire quelque chose, et tu refuses de te repentir. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Verset 20. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. T'es un méchant, Job, ça c'est la seule explication. Ça t'arrive parce que t'es un pécheur, et que t'as péché et tu refuses de reconnaître tes fautes. En général, ce que Bildad dit là est vrai. Dieu protège, en général, il protège l'homme intègre et il punit ceux qui sont méchants. Mais il est incapable de dire en quoi cela s'applique précisément à Job dans cette situation. C'est une généralité qui est vraie, mais c'est pas très réconfortant ces paroles pour Job dans une telle situation. Verset 1 du chapitre 9 maintenant. Job répond à Bildad. Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance qui lui résisteraient impunément. Il transporte soudain les montagnes et les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. » Job veut contester avec Dieu, mais il reconnaît la grandeur de Dieu, mais quand même, il commence à vouloir se mesurer à Dieu, et de dire, tu me dois une explication. Chapitre 9, verset 20. Suis-je juste, ma bouche me condamnera. Suis-je innocent, il me déclarera coupable. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Je suis innocent, il me détruit comme si j'étais malfaiteur. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie, il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Dieu est maître de tout. Si on voit des iniquités sur la terre, Dieu doit être responsable. N'est-ce pas? Il est en train de juger Dieu, de dire que Dieu n'est pas juste, le traite de manière injuste. Descendons verset 32. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette erreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas, car je ne me sens pas coupable en moi-même, je ne vois rien. Ses amis répètent constamment, t'as péché, c'est pour ça que tu souffres. Et Job dit, je ne vois rien, je ne vois rien. Verset 35. Alors je parlerai, je ne le craindrai pas, car je ne me sens pas coupable envers moi-même. Est-ce juste de parler à Dieu de ce ton? De dire à Dieu, si tu ne menaçais pas, je pourrais te parler ouvertement. Mais maintenant, tu me détruis, je n'ai rien à dire. Ah, ce n'est pas, on commence à avoir des failles, quand même, dans Job. Sous une pression énorme, il commence à dire que Dieu n'est pas juste. Il commence à attribuer des qualités d'injustice à l'Éternel. Chapitre 10, verset 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme on dit parfois, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse ça? Ne paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Pour que tu recherches mon iniquité? Pour que tu t'inquiètes de mon péché? Sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruiras. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Je souffre, tu me fais tout cela, et je ne comprends pas, c'est pas juste. Verset 20. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'ils me laissent, qu'ils se retirent de moi, et que je respire un peu? Je ne peux pas supporter ce que Dieu me fait subir. C'est insupportable. Chapitre 11. Tsophar, troisième ami, intervient maintenant. Verset 6. Résume un petit peu ce que lui, il va dire. S'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Il devrait être plus sévère sur toi, Job, si vraiment tu te voyais, si tu te voyais comme Dieu le voit. Et peut-être une part de vérité pour la plupart d'entre nous là-dedans, si Dieu nous traitait vraiment comme nous le méritions, on ne serait plus là, hein, depuis longtemps. Mais ça n'aide pas vraiment dans la situation de Job à ce moment-là. Comment est-ce que cela l'aide? Mais pas du tout. Et c'est ce que Job répond, chapitre 12, verset 1. Job prit la parole et dit, « On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous. » Et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Vous êtes certainement les hommes les plus sages au monde pour me conseiller comme ça. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi. Je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? Vous me dites des platitudes que tout le monde connaît. Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Je suis bon. J'obéis à Dieu du mieux que je peux et regarde ce qui m'arrive. C'est pas juste. Chapitre 13, verset 1. Voici, mon œil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous, vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence, vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Vous dites des bêtises. Vous essayez de me réconforter et vous m'accusez faussement. Vous dites des bêtises, taisez-vous maintenant. Verset 7. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste? Et pour le soutenir, allégrez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Vous allez prendre la part de Dieu et vous allez dire des choses fausses de lui en m'accusant parce que les accusations que vous proférez sont fausses. Verset 13. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qui pourra. Pourquoi saisirai-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici quand même, il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Là, ce sont des paroles inspirantes. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Je garde l'espoir en lui, mais c'est pas juste ce qui me fait là, maintenant. Ce n'est pas juste. Voici quand même, il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui, mais devant lui, je défendrai ma conduite. C'est pas juste. Et je voudrais que Dieu m'explique. Je voudrais qu'il vienne et qu'on puisse discuter pour que je puisse lui montrer que c'est injuste, ce que je subis. Verset 18. Me voici prêt à plaider ma cause, je sais que j'ai raison. Si Dieu se présente ici, moi je vais gagner l'argument, la discussion. J'aurai gain de cause. Verset 23. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Il ne vivait pas dans le péché. Il vivait une vie droite. Il a raison jusqu'à un certain point dans ce qu'il dit, mais il va trop loin. Et comme nous allons voir, il est en train de parler de choses qu'il ne comprend pas. Il y a des choses que nous autres êtres humains, nous ne comprenons pas à propos de Dieu, à propos de ce que Dieu fait. Nous ne comprenons pas et nous ne devons jamais agir comme si nous comprenions tout. C'est ça une autre grande leçon du livre de Job. Chapitre 15. Eliphaz intervient de nouveau. Eliphaz de Témon prit la parole et dit, « Le sage répond-il par un vain savoir? Se gonfle-t-il de la poitrine du vent d'Orient? Est-ce par d'inutiles propos qui se défend et par des discours qui ne servent à rien? » Verset 12. Où ton cœur t'entraîne-t-il? Et que signifie ce roulement de tes yeux? Quoi, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exhale de pareils discours? Il dit attention à tes propos. Tu es en train de manquer de respect envers le Créateur. Et Job répond, chapitre 16, verset 1. Job prit la parole et dit, j'ai souvent entendu pareilles choses. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous, si vous étiez à ma place. Je vous accablerai de paroles, je secourrai sur vous la tête. Il dit, c'est de l'air chaud, c'est tout. Vous parlez en l'air, et c'est pas juste ce que vous dites. Chapitre 17, verset 1. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. Sois auprès de toi-même ma caution, autrement qui répondrait pour moi? Mes amis ne m'aident pas. En fait, ils alourdissent mon fardeau en m'accusant de choses qui ne sont pas vraies. Bildad intervient de nouveau au chapitre 18, verset 5. La lumière du méchant s'éteindra. S'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit, malgré ses efforts, il tombera. Toujours les mêmes accusations. C'est ta faute, Job. Tu dois reconnaître tes fautes, sinon ça va. Il n'y aura pas de solution. Chapitre 19, Job répond de nouveau à Bildad. Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Mais pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Je n'ai rien fait pour mériter ce qui m'arrive. » Voici, je crie à la violence et nul ne répond, verset 7. J'implore justice et il n'y a point de justice. Dieu ne me traite pas de manière juste. Il me traite de manière injuste. Avouons-le, frères et sœurs, probablement nous tous, nous avons eu cette pensée à un moment donné ou à un autre dans nos vies. C'est pas juste ce que je subis là. Moi, je ne mérite pas ça. J'essaie de faire du mieux que je peux. Je demande pardon quand je trébuche Pourquoi est-ce que ça m'arrive là? C'est pas juste. On a tous des moments comme cela. Chapitre 20. Tsophar intervient. Encore une fois, chapitre 20, verset 29, résumé un petit peu de ce qu'il dit. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Encore une fois, c'est toi le méchant, Job. C'est pour ça que tout cela t'arrive. C'est facile pour l'être humain de tomber dans cette façon de penser. Et même dans l'Église de Dieu, parfois, nous voyons quelqu'un qui souffre dans une épreuve ou dans quelque chose de difficile qui leur arrive, de pénible, et nous disons, ah, il a dû pécher. Il a dû faire quelque chose de mauvais et Dieu le punit maintenant. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'était pas le cas de Job. C'est pas parce que Job avait péché, il va avoir son caractère raffiné, mais ce n'est pas parce qu'il a péché au début, il ne vivait pas dans le péché au début, quand tout ceci commençait à lui arriver. Job répond au chapitre 21, verset 34, « Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. » Vous dites encore des bêtises. Troisième intervention d'Éliphaz au chapitre 22. Éliphaz le Témon prit la parole et dit, descendons verset 6, « Tu as enlevé sans motif des gages à tes frères, tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. » Accusation contre Job. « Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré, tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait, tu renvoyais les veuves à vide. » Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout d'un coup. Voilà ce que tu as dû faire, Job, c'est la seule explication possible. Ils reviennent toujours, accusant Job d'avoir fait tout cela. Ils assumaient, ils pensaient que s'il y a souffrance, automatiquement il y a eu péché, on l'a mérité. Quand le malheur arrive, c'est qu'on l'a mérité. Alors que ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des temps et des circonstances. Et même parfois, les hommes de bien, comme Job, ils souffrent terriblement et ils ne comprennent pas toujours pourquoi. Comme nous ne comprenons pas toujours pourquoi, nous devons passer par les moments difficiles dans nos vies. Job chapitre 25, verset 4. Bildad parle de nouveau. Il dit, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur ?» Tu maintiens ta justice, Job, mais c'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Nous savons que tu as tort. Tu ne peux pas avoir raison et souffrir comme ça. Il y a de la désobéissance ici quelque part, Job. Alors, il vaut mieux avouer. Chapitre 26, Job répond avec un peu, même pas un peu, beaucoup de sarcasme. Job prit la parole, verset 1 du chapitre 26. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, ah, heureusement que vous êtes là pour me consoler. Comme tu prêtes secours aux bras sans force. Quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. On voit l'amertume de son âme. Il ressent cette amertume contre ses amis, qui sont des amis, mais qui se trompent, et en fait qui empirent sa situation. Chapitre 27, verset 1. Chapitre 27, verset 1. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, « Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier, et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. » Et là, nous voyons la faille dans son caractère. Nous voyons une faiblesse dans Job. Il tient à sa justice. Il réduit Dieu à sa taille. Et il juge Dieu comme il jugerait un autre homme. Et il s'élève en même temps, du moins dans certaines choses, au niveau de Dieu, pour dire que c'est injuste ce que Dieu fait. Mais notre justice à nous, qu'est-ce qu'il vaut, notre justice? Notre justice ne vaut pas grand-chose, ne vaut rien. Les êtres humains sont-ils capables vraiment de la vraie justice? Non, ce n'est pas vraiment possible. Chapitre 29, Job parle de lui-même, toutes les bonnes choses qu'il avait, les bonnes choses qu'il a fait, les bonnes choses qu'il avait dans le temps. Il pense au bon vieux temps quand tout a été bien. Et puis au chapitre 30, il résume encore ses misères. Il explique, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Si j'avais fait ce péché ou ce péché-là, je comprendrais, mais je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas juste. Chapitre 31, verset 40, qu'il y coince des épines au lieu de froment que de livrer et de livrer au lieu d'orge. Et puis finalement, après 30 chapitres, fin des paroles de Job. Il a tout dit. Il a tout exprimé, tout ce qu'il avait à dire. Il a vidé son sac. Il a vidé son cœur. Et maintenant, c'est Dieu qui va commencer à intervenir. Mais avant l'intervention de Dieu, il y a un autre ami qui est beaucoup plus sage, Élieu. Élieu va intervenir maintenant, chapitre 32, verset 1. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Ils se regardaient comme justes. Il avait ce qu'on appelle parfois la propre justice. Alors s'enflamma de colère Élieu, fils de Barakiel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et ça, nous ne pouvons pas le dire. Il n'y a pas d'être humain qui soit complètement juste devant Dieu, sauf Jésus-Christ. Même au mieux de son état, même un homme comme Job, un Job intègre et droit, il n'est pas juste devant Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et verset 3, sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. C'était mauvais des deux côtés. Et il se mettait en colère. Verset 6. Élieu, fils de Barakiel de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards, c'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais finalement, je vais quand même vous dire un mot ou deux. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence, indication de l'esprit dans l'homme, qui nous différencie des animaux. Et il est en train de dire, c'est Dieu qui donne l'intelligence, pas forcément seulement l'âge. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, « En lui, nous avons trouvé la sagesse. » C'est Dieu qui peut le confondre. Ce n'est pas un homme qui peut le confondre. Il ne s'est pas adressé directement à moi aussi, lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils aient fini leur discours, qu'ils arrêtent et ne sachent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi, je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Au-dedans de moi, c'est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Dieu agit comme ça parfois, il met des paroles qu'il nous faut entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre. Nous espérons que vous entendez parfois dans les sermonnettes et les sermons des choses qui vous touchent. Et nous croyons, nous prions que cela vienne de la part de l'Éternel, comme c'était le cas ici pour Élieu. Verset 20, alors, chapitre 34, allons un peu plus loin. Pardon, restons encore au chapitre 33 un instant et lisons le verset 26 et 27. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. quand Dieu permet à ce que l'épreuve touche quelqu'un, les épreuves nous poussent à nous mettre à genoux, à parler à Dieu à cœur ouvert, à demander pardon, à demander qu'il nous guide, à demander sa sagesse, qu'il nous aide à trouver la solution, une sortie. Et Dieu le fait. Et parfois, les épreuves sont pour nous guider vers la sagesse et de reconnaître nos péchés quand nous avons commis des péchés. J'ai péché. Ça devrait être le résultat de nos épreuves quand nous passons par des épreuves dans la vie, de reconnaître nos torts. J'ai péché. J'avais la tête dure, j'ai pas vu ce que je devais, je me suis pas concentré sur ce qu'il fallait, et Dieu attire mon attention sur la chose. Chapitre 34, maintenant, verset 5. Job dit, « Je suis innocent et Dieu me refuse justice. » Et il ne devrait pas dire cela. Personne n'est innocent complètement. Dieu peut toujours nous reprocher quelque chose. Et Dieu ne nous refuse pas justice. Si Dieu nous accordait la justice, il y a longtemps qu'on serait tous morts et oubliés. Verset 17. Un ennemi de la justice régnerait-il? Et condamneras-tu le juste, le puissant? Job, tu vas accuser Dieu d'être injuste? C'est fort. C'est beaucoup trop fort. Tu ne devrais pas être en train de dire que Dieu est injuste. Tu ne comprends même pas qui il est et toute la puissance qu'il a. Verset, chapitre 34, toujours verset 35. Job parle sans intelligence, et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants, car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous, il multiplie les paroles contre Dieu. Il accuse Dieu d'être injuste. Il n'a pas réagi à cette épreuve comme il aurait dû, d'après ce que Élie explique ici. Job se retranche derrière sa propre justice. Chapitre 35, verset... Attends, je viens de lire, chapitre 35, verset 14. « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Patience, Job, patience. » Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu souci du crime. Ainsi Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence, en accusant Dieu. C'est toi, Job, qui ne comprends pas, tu ne sais pas tout ce qui se passe. Tu imagines, tu réduis Dieu à ta taille, et tu veux disputer avec lui. Tu ne reconnais pas tes propres limites. Et le fait que Dieu, lui, est sans limite. Chapitre 36, verset 1. Élie continua et dit, « Attends un peu, je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de loin et je prouverai la justice de mon Créateur. » Ça, c'est la vraie justice, la justice de Dieu, non pas notre propre justice. Et maintenant, finalement, Dieu va parler, Dieu va intervenir. Chapitre 38, verset 1. Job disputait avec Dieu, Dieu va lui répondre maintenant. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Et il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Voyez-vous, Dieu a des desseins. Il a des desseins pour chaque être humain. Il a un dessein pour vous, il a un dessein pour moi. Et nous ignorons tout ce qui fait partie de ce dessein. Nous connaissons le but ultime. Mais comment former, comment nous préparer, comment nous modeler, comme le potier fait l'argile, ça nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire de nous et comment il va travailler avec nous. Verset 3. Saint Hérin comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Mais Job, bien sûr, tu devrais savoir tout ça, puisque tu es en train de me dire comment je dois faire avec mon univers. Alors explique-moi comment je l'ai fait. Avant de commencer à me consoler, à me conseiller sur comment je dois conduire mon univers, fais-en toi un, déjà, et puis tu me diras. verset 21. Tu le sais, Job, n'est-ce pas? Car alors tu étais né, n'est-ce pas? Et le nombre de tes jours est grand. Ah ben tu étais là, n'est-ce pas, Job? Ah non, tu n'étais pas là quand j'ai fait tout ça? Tu ne sais pas comment je l'ai fait? Alors pourquoi tu me conseilles maintenant? Pourquoi tu me donnes des conseils? Pourquoi tu me disputes ma façon de faire? Et Dieu continue avec en montrant sa grandeur et la petitesse de nous autres êtres humains. Et Dieu n'y est pas allé de main morte non plus, il a répété, il a martelé les choses pour Job, qui s'était plaint pendant une trentaine de chapitres. Chapitre 39, maintenant, verset 34. L'Éternel, s'adressant à Job, dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Après avoir montré la grandeur de Dieu et la petitesse de Job, Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur la bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Saint terrain comme un vaillant homme, il n'a pas encore fini. Il va poser encore des questions. » Comme j'ai dit, il a martelé les choses. Verset 3. « Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? » Et quand nous nous plaignons à Dieu d'une injustice, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de dire « Dieu est injuste » pour pouvoir dire « Moi, je suis juste. Je subis une chose que je ne mérite pas. » C'est anéantir la justice de Dieu. Et ça, c'était le problème courant des êtres humains qu'avait Job aussi, une faille dans son caractère, que Dieu est en train de régler. Il est en train de réparer cette faille. Chapitre 41, verset 16. Quand il se lève, les créatures que Dieu a créées, quand il se lève, les plus vaillants ont peur, et l'épouvante les fait fuir. Verset 34. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Et le roi, il est le roi des plus fiers animaux. Dieu a créé des choses. Il a créé des choses sur cette terre. Non seulement des animaux, mais d'autres forces de la nature qui nous épouvantent, qui nous terrifient. Nous nous rendons compte à quel point nous sommes petits. Et c'est Dieu qui a fait tout cela. C'est Dieu qui a fait le crocodile, l'hippopotame. C'est Dieu qui a fait les baleines ou ces autres animaux qui sont mentionnés ici. On ne sait pas exactement lequel c'est. Certains de ces, du moins un de ces animaux qui sont là. Mais il y a des animaux qui sont terrifiants. Nous rendons compte la puissance qu'ils ont et la manque de puissance que nous avons. Dieu dit à Job, Job, tu n'oses pas te mesurer à moi, et tu ne devrais pas juger ce que je fais. Tu ne devrais surtout pas m'imputer l'injustice quand tu ne comprends pas du tout ce que je suis en train de faire. Tu es incapable de comprendre tout ce que je fais. Comme j'ai dit tout à l'heure, avant de me critiquer sur ma façon de gérer l'univers et ta vie, ben, il faut en créer un. Il faut en créer une toi-même. Et alors on parlera. Chapitre 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » La leçon a été apprise. Son caractère a été raffiné. Cette faille a été identifiée. Il ne devait pas s'attacher à sa propre justice, mais s'attacher à la justice de Dieu. Dieu est beaucoup plus que juste. Et une fois que Job a appris cette leçon, Dieu l'a rétabli. Verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânes. Il eut 7 fils, et 3 filles. Et les noms sont donnés. Verset 17. Job mourut, âgé et rassasié de jour. Il avait appris que ce qui est le plus important dans notre relation avec Dieu, c'est de comprendre à quel point il est illimité, sa puissance, à quel point il est au-dessus de nous, et à quel point nous sommes petites, nous sommes impuissantes. Et nous ne devons pas oser nous comparer à Dieu ou accuser Dieu de faire des choses qui sont méchantes ou injustes. Cela ne peut pas avoir lieu, ça ne peut pas exister, l'injustice de Dieu. Nous avons parcouru rapidement, c'est un grand livre, j'ai essayé juste de prendre les points saillants pour suivre un petit peu le fil de ce que nous trouvons ici. Vous aurez le loisir de relire le livre de Job quand vous voulez. Mais j'aimerais, avant de terminer, souligner plusieurs leçons que nous devons tirer de notre lecture, notre étude du livre de Job. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter maintenant, ce premier point. Quand nous voyons quelqu'un qui souffre, quand nous voyons un frère ou une sœur qui est vraiment éprouvé, il ne faut pas conclure que c'est de sa faute. Il le mérite. Il avait péché, il a dû faire quelque chose, et pour cela, c'est pour cela que tout cela arrive. Il se peut, parfois, quand les épreuves nous tombent dessus, peut-être, dans certains cas, c'est vrai que Dieu est en train d'attirer notre attention sur un péché. Mais parfois, c'est juste pour affiner notre caractère, c'est pour nous renforcer, pour nous rendre plus forts et développer davantage notre caractère. Job était, autant que possible pour un homme, il était intègre et droit. Il ne méritait pas les catastrophes, pas plus que n'importe qui d'autre, et moins que la plupart des gens sur la terre. Mais Dieu a un plan pour chacun de nous, et nous ne comprenons pas exactement quel est ce plan. Ce plan nécessite, dans la vie de nous tous, parfois, ce plan pour nous nécessite des désagréments, des souffrances. Ça fait partie de la vie. Mais le fait que nous souffrons, ça ne veut pas dire que Dieu est injuste. Comme j'ai dit, Dieu a un plan, il a un dessein pour chaque être humain, et il travaille dans la vie de chacun. Et nous devons comprendre que ça fait partie de la vie, chez nous et chez les autres également. Deuxièmement, nous sommes incapables de comprendre les réponses à toutes les questions que nous avons dans cette vie. Et nous devons le comprendre, on n'est pas capable de tout comprendre. Nous sommes tellement limités comparés à Dieu qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Avez-vous noté que Job a demandé pourquoi? Pourquoi cela arrive? Expliquez-moi pourquoi. Mais Dieu n'a pas répondu vraiment à sa question. Il n'a pas dit, assieds-toi Job, tu souffres de propre justice, voilà, c'est pour ça que cette épreuve t'est arrivée. Non? Dieu a simplement dit, regarde comme je suis grand, regarde comme t'es petit, fais-moi confiance. Tu vas devoir me faire confiance, Job, parce que tu ne peux pas comprendre les réponses à toutes tes questions encore. Ça, frères et sœurs, c'est une très grande leçon du livre de Job. Vous autres, les êtres humains, vous n'allez pas tout comprendre dans cette vie. Pourtant, nous voulons tout comprendre, je sais, moi aussi. Nous voulons comprendre le pourquoi de tout ce qui nous arrive. Et parfois, nous pouvons au moins en partie comprendre. Mais il y aura des moments quand nous n'allons pas comprendre, et parfois des moments où nous n'allons pas comprendre du tout. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dessein derrière tout cela, que Dieu est en train de mener à bien dans nos vies. Troisième leçon que nous avons vue, quand une épreuve nous arrive, quand une souffrance arrive que nous ne comprenons pas, ça semble être complètement sans raison, pas quelque chose que nous aurions mérité, il ne faut jamais blâmer Dieu. Et je sais que c'est facile à faire, de commencer à penser, c'est pas juste ce qui m'arrive. Moi j'ai mieux fait que l'autre et ça tombe sur moi, c'est pas juste. Et on peut se mettre à blâmer Dieu. Il ne faut pas blâmer Dieu. Dieu voit tellement plus que nous, et notre vue est tellement limitée maintenant, que nous ne devons jamais blâmer Dieu, parce que Dieu ne peut être injuste. Il nous a créés, il nous donne tout ce que nous avons, il nous veut du bien, mais pour développer son caractère en nous, en quelques décennies, pour nous permettre de vivre éternellement avec lui, on va passer par quelques moments pénibles de temps en temps. C'est nécessaire. La souffrance fait partie de ce parcours. Il ne faut pas blâmer Dieu. Il a toujours raison. Et il y a toujours une raison pour tout ce que Dieu fait, même quand nous ne comprenons pas la raison. Il faut patienter. Ça, c'est notre rôle, c'est de patienter. De chercher ce que nous pouvons faire pour alléger, trouver une sortie, pour voir où nous nous sommes trompés, si c'est le cas, si on a fait des erreurs qui ont attiré des souffrances vers nous, on devrait chercher ça. On devrait essayer de régler ce que nous pouvons. Et ceci est vrai dans plusieurs domaines de la vie. Patience, chercher ce qu'on peut faire, et puis attendre le bon moment et la résolution que Dieu va finalement apporter. Ceci s'applique à nos rapports les uns avec les autres. Parfois, nous allons souffrir à cause de cela. Ça peut arriver dans l'Église. Nous avons parfois passé par des moments difficiles dans l'Église, indépendamment de notre volonté, par quelque chose que nous avons fait. Et Dieu l'a permis pour ces raisons. Ça peut être le cas avec un ministre, avec qui on s'entend un peu difficilement, différence de personnalité, etc. La première chose à faire, frères et sœurs, quand nous tombons dans un problème, une épreuve, une difficulté, quelque chose de pénible, nous devrions d'abord assumer que le problème, c'est le nôtre. Ça devrait être notre première escale. Considérer, qu'ai-je fait moi pour m'attirer tout cela? Et puis, sincèrement, si on trouve rien, ben il faut dire, c'est une épreuve, je dois patienter, Dieu travaille avec moi. Je ne comprends pas comment ni pourquoi en ce moment, mais je sais qu'il le fait, parce qu'il le dit, il a promis que ça sera comme ça. C'est plutôt naturel de chercher la faute chez l'autre, comme Job a dit, Job a cherché la faute chez Dieu et chez ses amis. Mais nous, nous devrions d'abord chercher la faute ici. Et quatrième et dernière leçon que j'aimerais souligner, c'est que c'est inutile pour nous de vouloir maintenir notre propre justice devant Dieu, et même devant les uns les autres. C'est une perte de temps. Ésaïe, chapitre 54, deux derniers passages. Ésaïe 64. Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe dit, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé, au mieux. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Quand nous voulons montrer que nous sommes sans erreur, que nous sommes bien comme il faut, que le problème n'est pas chez nous, eh bien, ce n'est pas comme ça que Dieu le voit. Et ça, c'est un faille de caractère que Dieu a dû corriger chez Job. Et il va devoir travailler sur cette faille-là aussi, s'il le trouve chez nous, également. Parce que nous devons nous conformer à Dieu. Une page ou deux en arrière dans Ésaïe 62, verset 2. Pardon, pas 62, chapitre 66. Chapitre 66, verset 2. Ésaïe 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. C'est ça que Dieu aime, l'humilité, la douceur. Parce que quand nous sommes humbles, nous sommes en train d'agir en conséquence de la réalité. Nous avons beaucoup de raisons pour être humbles. Nous sommes peu de choses, rien du tout comparé à notre grand Dieu, notre grand Créateur. Alors c'est inutile de maintenir notre propre justice. Et nous devrions nous parer plutôt d'humilité, plutôt que de vouloir maintenir notre droit. Job, comme tous les êtres humains, comme vous et comme moi, il avait un problème de propre justice. Il avait aussi un manque de confiance dans la bonté et les perfections de Dieu. parce qu'il n'avait pas vraiment vu Dieu, comme il a dit. Il a entendu parler, mais là, il a vu vraiment la différence. Il est très important pour nous de garder cette différence à l'esprit, du mieux que nous pouvons, pour ne pas manquer de confiance dans la bonté et les perfections de Dieu. Dieu a aidé Job à surmonter ce problème. C'était une leçon pénible, difficile pour lui. Et c'est une leçon qui est écrite pour vous et pour moi, pour que nous puissions profiter à notre niveau de cette leçon et de l'appliquer aussi dans nos vies. Profitons bien de l'exemple de Job.